Chapitre 7. S'il y a de l'espoir,
écrivit Winston,
il se trouve chez les prolétaires.
S'il y avait de l'espoir, il devait se trouver chez les prolétaires, car c'était seulement de ces masses grouillantes et méprisées, 85% de la population de l'Océanie, que pourrait un jour jaillir la force nécessaire pour détruire le parti. Le parti ne pouvait pas être renversé de l'intérieur. Ses ennemis, s'il en avait, n'avaient aucun moyen de se rassembler, ou même de s'identifier les uns les autres. Même si la légendaire confrérie existait, ce qui était possible, il était inconcevable que ses membres puissent jamais se rassembler à plus de 2 ou 3. La rébellion, c'était un regard, une inflexion de la voix, au mieux un mot murmuré. Mais les prolétaires, si seulement ils pouvaient d'une façon ou d'une autre prendre conscience de leur force, n'auraient aucunement besoin de conspirer. Ils n'avaient besoin que de se lever et de s'ébrouer comme un cheval qui chasse les mouches. S'ils le décidaient, il pouvait mettre le parti en pièces demain matin. Certainement, un jour ou l'autre, cela arriverait. Et pourtant. Il se souvenait de cette fois où il descendait une rue bondée, lorsque le cri terrible de centaines de voix, des voix de femmes, avait retenti, venant d'une petite rue attenante devant lui. C'était un formidable cri de colère et de désespoir, un grand et profond « Oh !» qui se prolongeait comme la réverbération d'une cloche. Son cœur s'était arrêté. « Ça commence, » avait-il pensé, « une émeute. Les prolétaires vont se libérer à la fin. » Lorsqu'il eut rejoint l'endroit, ce fut pour voir une foule de 200 ou 300 femmes envahissant les étals du marché avec des visages aussi tragiques que si elles avaient été les passagères sans espoir d'un navire en perdition. Mais, à ce moment, le désespoir général se fragmenta en une multitude de querelles individuelles. Il se trouvait que l'un des étals du marché vendait des casseroles en fer blanc. C'étaient des articles misérables et crasseux, mais des casseroles de tout type étaient toujours des articles qu'il était difficile de se procurer. Et maintenant, le stock s'était subitement épuisé. Les femmes qui avaient eu le plus de chance, poussées et bousculées par les autres, essayaient de s'esquiver avec leurs casseroles, tandis que des dizaines d'autres vociféraient devant les étals, accusant le commerçant de faire preuve de favoritisme et d'avoir d'autres casseroles quelque part en réserve. Il y eut une nouvelle explosion de cris. Deux grosses femmes, dont l'une était décoiffée, s'étaient emparées de la même casserole et cherchaient toutes deux à l'arracher des mains de l'autre. Pendant un moment, elles tirèrent toutes les deux, puis le manche lâcha. Winston les regardait avec dégoût. Et pourtant, pendant juste un instant, quel pouvoir presque terrifiant avait révélé ce cri jailli de seulement quelques centaines de gorges. D'où venait qu'il n'était pas capable de crier ainsi pour quelque chose d'important? Il écrivit
« Tant qu'ils ne seront pas devenus conscients, ils ne se révolteront jamais, et ils ne pourront devenir conscients qu'une fois qu'ils se seront révoltés. »
Ceci, réfléchit-il, pourrait presque être une transcription d'un des manuels du parti. Le parti se vantait bien sûr d'avoir libéré les prolétaires de la servitude. Avant la Révolution, ils avaient été honteusement exploités par les capitalistes. Ils avaient été affamés et fouettés. Les femmes avaient été forcées de travailler dans les mines de charbon. Les femmes travaillaient toujours dans les mines de charbon, en réalité. Et les enfants étaient vendus à des usines dès l'âge de 6 ans. Mais en même temps, en vertu des principes de la pensée double, le parti enseignait que les prolétaires étaient des inférieurs de naissance qui devaient rester dans une situation de sujétion, comme des animaux, en application de quelques règles simples. En réalité, on savait fort peu de choses sur les prolétaires, mais il n'était pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Tant qu'ils continuaient à travailler et à procréer, leurs autres activités étaient sans importance. Laissés à eux-mêmes, comme le bétail lâché en liberté dans les plaines d'Argentine, ils en étaient revenus à un style de vie qui leur semblait naturel, une sorte de schéma ancestral. Ils naissaient, ils grandissaient dans le caniveau, travaillaient à 12 ans, connaissaient une brève période florissante de beauté et de désir sexuel, se mariaient à 20 ans, atteignaient la maturité à 30, et mouraient pour la plupart à 60 ans. Le travail physique épuisant, les tâches ménagères et le soin des enfants, les petites querelles avec les voisins, les films, le football, la bière, et par-dessus tout, le jeu, étaient l'unique horizon de leurs esprits. Les maintenir sous contrôle n'était pas difficile. Quelques agents de la police de la pensée évoluaient parmi eux, répandant de fausses rumeurs, repérant et éliminant les quelques individus qu'ils jugeaient capables de devenir dangereux, mais aucune tentative n'était faite pour les endoctriner avec l'idéologie du parti. Il n'était pas souhaitable que les prolétaires aient un fort sentiment politique. Tout ce qu'on attendait d'eux, c'était un patriotisme primitif auquel on pouvait faire appel à chaque fois que c'était nécessaire, pour leur faire accepter des temps de travail accrus ou des rations plus faibles. Et même quand ils étaient insatisfaits, comme c'était parfois le cas, leur insatisfaction ne menait nulle part, car n'ayant pas d'idée générale, ils ne pouvaient se concentrer que sur de petits griefs mesquins. Ils n'étaient pas conscients des maux les plus importants qui leur étaient infligés. La grande majorité des prolétaires n'avaient pas même d'écrantelle à leur domicile. Même la police civile ne se mêlait que rarement de leurs affaires. Il y avait une très forte criminalité à Londres, un véritable état dans l'état fait de voleurs, de bandits, de prostituées, de trafiquants de drogue et de racketteurs de toutes sortes. Mais comme tout cela se déroulait parmi les prolétaires eux-mêmes, cela n'avait aucune importance. Pour tout ce qui concernait la morale, ils avaient le droit de suivre leurs codes ancestraux. Le puritanisme sexuel du parti ne leur était pas imposé. La fornication n'était pas punie. Le divorce était autorisé. D'ailleurs, même la pratique religieuse aurait été autorisée si les prolétaires en avaient manifesté la moindre envie ou le moindre besoin. Ils étaient au-delà de toute suspicion. Comme le proclamait le slogan du parti, « Les prolétaires et les animaux sont libres ». Winston se pencha et gratta avec précaution son ulcère variqueux. Il avait recommencé à le démanger. Ce sur quoi on revenait sans cesse, c'était l'impossibilité de savoir à quoi ressemblait réellement la vie avant la Révolution. Il sortit du tiroir un exemplaire d'un manuel scolaire d'histoire qu'il avait emprunté à Mrs. Parsons et commença à en recopier un large extrait dans le journal.
Dans les temps anciens, avant la glorieuse Révolution, Londres n'était pas la belle cité qu'elle est de nos jours. C'était un endroit sombre, sale, misérable, où presque personne n'avait suffisamment de quoi se nourrir, et où des centaines, des milliers de personnes n'avaient pas de chaussures à leurs pieds, et même pas un toit sous lequel dormir. Des enfants pas plus âgés que vous venaient travailler 12 heures par jour pour des maîtres cruels qui les flagellaient s'ils travaillaient trop lentement, et ne les nourrissaient avec rien d'autre que des croûtes de pain rassis et de l'eau. Mais au milieu de toute cette terrible pauvreté, il y avait de grandes et belles maisons qui étaient habitées par de riches hommes qui pouvaient avoir jusqu'à 30 serviteurs pour prendre soin d'eux. On appelait ces hommes riches des capitalistes. C'étaient des hommes gras et laids, avec des visages malfaisants, comme celui qci est représenté sur la page ci-contre. Vous pouvez voir qu'il est habillé d'un long manteau qu'on appelait une redingote, et d'un curieux chapeau brillant en forme de tuyau de poêle qu'on appelait un haut de forme. C'était l'uniforme des capitalistes, et personne d'autre n'était autorisé à le porter. Les capitalistes possédaient tout au monde, et tous les autres étaient leurs esclaves. Ils possédaient toutes les terres, toutes les maisons, toutes les usines et tout l'argent. Si quelqu'un leur désobéissait, ils pouvaient l'envoyer en prison, ou ils pouvaient lui enlever son emploi et le condamner à mourir de faim. Quand une personne ordinaire parlait à un capitaliste, il lui fallait se courber humblement, enlever sa casquette et l'appeler « sœur ». Le chef de tous les capitalistes était appelé le roi et…
Mais il connaissait tout le reste. On allait mentionner les évêques aux manches évasées, les juges dans leurs robes d'hermine, le pilori, le carcan, la roue, le chat à neuf queues, le banquet du lord-maire… et la pratique qui consistait à embrasser l'orteil du pape. Il y avait aussi ce qu'on appelait la « jus primae noctis », qui ne serait probablement pas mentionnée dans un livre pour enfants. C'était la loi en vertu de laquelle tout capitaliste avait le droit de coucher avec n'importe quelle femme travaillant dans l'une de ses usines. Comment savoir ce qui, dans tout cela, était mensonger? Il était possible que l'être humain vive mieux en moyenne maintenant qu'avant la Révolution. La seule preuve du contraire, c'était cette protestation muette que vous sentiez jusque dans vos os, le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles vous viviez étaient intolérables et qu'elles avaient dû être différentes à d'autres époques. Il était frappant que la véritable caractéristique de la vie moderne n'était ni sa cruauté, ni son insécurité, mais simplement son austérité, sa saleté, son apathie. La vie, si vous regardiez autour de vous, ne ressemblait en rien, en premier lieu, aux mensonges que déversaient les écrantelles, mais elle ne ressemblait pas non plus à l'idéal que tentait d'atteindre le parti. De nombreux aspects de la vie, même pour un membre du parti, étaient neutres et apolitiques. S'épuiser dans un travail ennuyeux, se bagarrer pour une place dans le métro, repriser une chaussette usée, mendier un comprimé de saccharine, conserver un mégot de cigarette. L'idéal prôné par le parti était quelque chose d'immense, de terrible et de scintillant, un monde d'acier et de béton, de machines monstrueuses et d'armes terrifiantes, une nation de guerriers et de fanatiques, allant de l'avant dans un parfait ensemble, chacun avec les mêmes pensées et criant les mêmes slogans, sans cesse occupés à travailler, combattre, triompher, persécuter, 300 millions de personnes ayant toutes le même visage. La réalité, c'était des cités décrépites, miteuses, où des gens affamés traînaient les pieds çà et là dans des chaussures percées, dans des maisons rafistolées du XIXe siècle qui sentaient toujours le chou et les toilettes défectueuses. Il lui semblait voir en Londres une vaste cité en ruine d'un million de poubelles, et à cette vision se mêlait l'image de Mrs. Parsons, une femme au visage ridé et aux cheveux clairsemés, aux prises sans aucun espoir, avec un tuyau de vidange bouché. Il se pencha et gratta à nouveau sa cheville. Jour et nuit, l'écrantelle vous emplissait les oreilles de statistiques, prouvant que les gens avaient maintenant plus de nourriture, plus de vêtements, des maisons plus confortables, des loisirs plus agréables, qu'ils vivaient plus longtemps, travaillaient moins, étaient plus gros, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, mieux éduqués que 50 ans plus tôt. Pas un seul de ces mots ne pourrait jamais être confirmé ou infirmé. Le parti proclamait, par exemple, qu'aujourd'hui 40% des prolétaires adultes savaient lire. Avant la Révolution, ce taux n'était, disait-on, que de 15%. Le parti proclamait que le taux de mortalité infantile n'était maintenant que de 160 pour 1000, alors qu'il était de 300 avant la Révolution, et ainsi de suite. C'était comme une équation simple, à deux inconnus. Il se pouvait très bien que chaque mot, littéralement des livres d'histoire, même tout ce qu'on acceptait sans se poser aucune question, soit de pures inventions. Autant qu'il pouvait savoir, il n'y avait peut-être jamais eu de loi comme la jus primae noctis, ou de créatures comme les capitalistes, ou de chapeaux comme les hauts de forme. Tout se perdait dans le brouillard. Le passé était effacé. L'effacement était oublié. Le mensonge devenait vérité. Une seule fois dans sa vie, il avait possédé, après l'événement, c'était cela l'important, la preuve concrète, irréfutable, d'un acte de falsification. Il l'avait tenu dans ses mains pendant près de 30 secondes. Ce devait être en 1973, en tout cas c'était à peu près au moment où lui et Katharine s'étaient séparés. Mais la date, vraiment importante, c'était 7 ou 8 ans auparavant. L'histoire avait commencé réellement au milieu des années 60, au moment des grandes purges, pendant lesquelles les premiers meneurs de la Révolution avaient été éliminés une bonne fois pour toutes. En 1970, plus aucun d'entre eux ne subsistait, à part Big Brother lui-même. Tous les autres avaient déjà à ce moment-là été démasqués comme traîtres et contre-révolutionnaires. Goldstein avait fui et se cachait, nul ne savait où. Et quant aux autres, quelques-uns avaient simplement disparu, tandis que la majorité avait été exécutée après des procès spectaculaires durant lesquels ils avaient confessé leurs crimes. Parmi les derniers survivants, il y avait trois hommes, nommés Jones, Aronson et Rutherford. Ils avaient dû être arrêtés tous les trois vers 1965. Comme cela arrivait souvent, ils avaient disparu pendant un an ou plus, si bien qu'on ne savait pas s'ils étaient vivants ou morts, Puis on les avait soudainement exposés à nouveau pour qu'ils s'accusent eux-mêmes, comme c'était l'usage. Ils avaient avoué être coupables d'intelligence avec l'ennemi. À cette époque aussi, l'ennemi était l'Eurasie. De détournement de fonds publics, du meurtre de membres fidèles du parti, d'intrigues contre le gouvernement de Big Brother, qui avait commencé longtemps avant la Révolution, et d'actes de sabotage ayant causé la mort de centaines de milliers de personnes. Après leur confession, ils avaient été pardonnés, réintégrés au parti, et placés à des postes qui, malgré leurs intitulés ronflants, n'étaient en fait que des placards. Tous trois avaient écrit de longs articles abjects dans le Times, analysant les raisons de leur trahison et promettant de faire amende honorable. Peu de temps après leur libération, Winston les avait vus, tous trois, au café du Châtaignier. Il se souvenait qu'il les regardait du coin de l'œil avec une sorte de fascination terrifiée. Ils étaient beaucoup plus âgés que lui, des reliques de l'ancien monde, pratiquement les derniers grands personnages qui restaient de l'époque héroïque du parti. Le prestige de la lutte souterraine et de la guerre civile s'attachait encore un peu à leur personne. Il avait le sentiment, même si déjà à cette époque les faits et les dates commençaient à se brouiller, qu'il avait connu leur nom des années avant de connaître celui de Big Brother. Mais aussi, ils étaient des renégats, des ennemis, des intouchables, voués à une mort absolument certaine d'ici un an ou deux. Aucun de ceux qui tombaient entre les mains de la police de la pensée n'en réchappait au final. Ils étaient des cadavres, attendant qu'on les renvoie dans la tombe. Personne n'était assis aux tables les plus proches. Il n'était pas sage, ne serait-ce que d'être aperçu dans le voisinage de telle personne. Ils étaient assis en silence devant leur verre de gin aromatisé au clou de girofle, qui était la spécialité du café. Des trois, c'était Rutherford dont l'apparence avait le plus impressionné Winston. Rutherford avait jadis été un célèbre caricaturiste, dont les dessins féroces avaient aidé à enflammer l'opinion publique avant et pendant la Révolution. Même alors, à de longs intervalles, ces caricatures étaient encore publiées par le Times. Elles n'étaient plus qu'une imitation de son ancien style, et curieusement elles étaient sans vie et peu convaincantes. Elles ressassaient toujours les anciens thèmes, les bidonvilles, les enfants affamés, les batailles de rue, les capitalistes en haut de forme. Même sur les barricades, les capitalistes semblaient s'accrocher à leur haut de forme dans un effort désespéré et sans fin pour revenir au passé. C'était un homme monstrueux, avec une crinière graisseuse de cheveux gris, un visage gonflé et ridé et d'épaisses lèvres négroïdes. En un temps, il avait dû être immensément fort, mais maintenant son grand corps se distendait, s'affaissait, débordait dans toutes les directions. Il semblait se désintégrer sous vos yeux, comme une montagne qui s'écroule. Il était 15:00, l'heure solitaire. Winston ne parvenait pas à se souvenir comment il s'était retrouvé dans le café à pareille heure. L'endroit était presque désert. Une musique métallique s'écoulait des écrantelles. Les trois hommes étaient assis dans leur coin, presque immobiles et sans parler. Sans qu'on l'ait appelé, le garçon amena de nouveaux verres de gin. Il y avait un jeu d'échecs sur la table à côté d'eux, avec les pièces placées, mais aucune partie n'était commencée. Et alors, pendant peut-être 30 secondes en tout, quelque chose s'était passé sur les écrantelles. Non seulement le morceau avait changé, mais la tonalité même de la musique avait changé aussi. Et il y avait eu, c'était vraiment difficile à décrire, une note particulière, craquante, comme un braiement railleur. Dans son esprit, Winston l'avait appelée une note jaune. Puis une voix dans l'écrantelle avait chanté. Sous le châtaignier florissant, je t'ai vendu et tu m'as vendu. Là ils sont étendus et là nous sommes étendus sous le châtaignier florissant. Aucun des trois hommes n'avait réagi, mais quand Winston avait lancé un regard au visage dévasté de Rutherford, il avait vu que ses yeux étaient pleins de larmes. Et pour la première fois, il avait remarqué, avec une sorte de frisson intérieur et sans savoir pourtant ce qui le faisait frissonner, qu'Aranson et Rutherford avaient tous deux le nez cassé. Quelque temps plus tard, tous trois avaient été arrêtés à nouveau. Il était apparu qu'ils s'étaient lancés dans de nouvelles conspirations dès leur libération. Lors de leur second procès, ils avaient, en plus de toute une gamme de nouveaux crimes, renouvelé leur confession des anciens. Ils avaient été exécutés et leur destin avait été relaté dans les annales du parti en guise d'avertissement pour la postérité. Environ 5 ans après, en 1973, Winston déroulait une liasse de documents qui venait juste de tomber sur son bureau depuis le tube pneumatique, quand il était tombé sur un bout de papier qui avait à l'évidence été glissé entre les autres, puis oublié. Au moment même où il était en train de l'aplatir de la main, il avait réalisé sa signification. C'était une demi-page, arrachée du Times une dizaine d'années auparavant. La moitié supérieure de la page, si bien qu'elle comprenait également la date. Elle présentait une photographie des délégués lors d'une réunion du parti à New York. Au milieu du groupe se trouvaient, bien visibles, Jones, Aronson et Rutherford. Il n'y avait pas d'erreur possible, et de toute façon leur nom se trouvait dans la légende sous la photo. Le problème, c'était que durant leur procès, tous les trois avaient avoué être sur le sol eurasien à cette date. Ils s'étaient rendus quelque part en Sibérie, depuis un aérodrome secret au Canada, et s'étaient entretenus avec les membres de l'état-major eurasien à qui ils avaient révélé d'importants secrets militaires. La date s'était gravée dans la mémoire de Winston, car c'était justement le jour du solstice d'été. Mais toute l'histoire devait être enregistrée dans d'innombrables autres documents. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les aveux étaient des mensonges. Bien entendu, ce n'était pas en soi une découverte. Même à cette époque, Winston n'imaginait pas que les personnes liquidées pendant les purges avaient réellement commis les crimes dont on les accusait. Mais cela, c'était une preuve concrète, le fragment d'un passé aboli, comme un os fossilisé qu'on retrouve dans la mauvaise strate et qui détruit une théorie géologique. Cela aurait suffi à désintégrer le parti si l'événement, ainsi que sa signification, avait pu être rendu public. Il s'était immédiatement remis à travailler. Dès qu'il avait vu la photographie et compris ce qu'elle signifiait, il l'avait aussitôt recouverte d'un autre papier. Par chance, l'écrantèle n'avait pu capter que son verso au moment où il l'avait déroulé. Il avait posé son bloc-notes sur ses genoux et avait reculé sa chaise pour se placer aussi loin que possible de l'écrantèle. Garder son visage inexpressif, ce n'était pas très difficile, et on pouvait même, avec un certain effort, contrôler sa respiration. Mais on ne pouvait pas contrôler les battements de son cœur, et l'écrantèle était suffisamment sensible pour les détecter. Il avait laissé passer une dizaine de minutes, pendant lesquelles il avait été tourmenté par la crainte de quelque accident, un courant d'air soudain soufflant sur son bureau, par exemple, qui aurait pu le trahir. Alors, en prenant garde à ne pas la dévoiler à nouveau, il avait laissé tomber la photographie dans le trou de mémoire, avec quelques autres papiers à jeter. Encore une minute, et elle serait réduite en cendres. C'était 10 ou 11 ans auparavant. Maintenant, il aurait certainement gardé la photographie. Il était étrange que le fait de l'avoir tenue entre ses doigts fut pour lui si significatif, même maintenant, alors que la photographie, tout comme l'événement qu'elle rappelait, n'était plus qu'un souvenir. L'emprise du parti sur le passé était-elle moins forte, se demanda-t-il, parce qu'une preuve qui n'existait plus maintenant avait un jour existé? Mais maintenant, même en supposant qu'il puisse la reconstituer à partir de ses cendres, la photographie ne constituerait même pas une preuve. Déjà à l'époque où il avait fait cette découverte, l'Océanie n'était plus en guerre avec l'Eurasie, et ça aurait donc dû être pour l'Estasie que les trois hommes auraient trahi leur pays. Et depuis, il y avait eu d'autres changements. 2, 3, il ne se souvenait pas combien. Très probablement, les aveux avaient dû être réécrits et réécrits jusqu'à ce que les faits et les dates d'origine n'aient plus le moindre sens. Non seulement le passé changeait, mais il changeait continuellement. Ce qui l'affligeait le plus et lui donnait une sensation de cauchemar, c'était qu'il n'avait jamais clairement compris le pourquoi de toute cette monstrueuse imposture. Les avantages immédiats d'une falsification du passé étaient évidents, mais la raison finale demeurait mystérieuse. Il reprit sa plume et écrivit.
« Je comprends comment, mais je ne comprends pas pourquoi. »
Il se demanda, comme il se l'était déjà souvent demandé, s'il n'était pas fou lui-même. Peut-être un fou n'était-il qu'une minorité réduite à une seule personne ? Il fut un temps où c'était un signe de folie de penser que la Terre tournait autour du Soleil. Maintenant, il en était de même si on pensait que le passé était inaltérable. Il était peut-être le seul à le croire, Et alors, s'il était le seul, cela faisait de lui un fou. Mais la pensée d'être fou ne le troublait pas beaucoup. Le plus horrible était qu'il pût se tromper. Il reprit le manuel scolaire d'histoire et regarda le portrait de Big Brother disposé en frontispice. Le regard hypnotique était fixé sur le sien. C'était comme si une force colossale s'exerçait contre vous, quelque chose qui pénétrait dans votre crâne, vous tapait sur le cerveau, vous effrayait de vos propres croyances, vous persuadant presque de refuser le témoignage de vos sens. À la fin, le parti annoncerait que 2 et 2 font 5, et vous finiriez par le croire. Il était inévitable qu'ils fassent cette annonce tôt ou tard, la logique de leur position l'exigerait. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience qui était tacitement reniée par leur philosophie, mais l'existence même d'une réalité extérieure. L'hérésie des hérésies, c'était le bon sens. Et ce qui était terrifiant, ce n'était pas qu'ils pourraient vous tuer si vous pensiez autrement, mais qu'il se pouvait qu'ils aient raison. Car après tout, comment savons-nous que 2 et 2 font 4, ou que la force de gravité existe, ou que le passé est immuable? Si le monde extérieur et le passé n'existent tous deux que dans l'esprit, et si l'esprit lui-même est contrôlable, qu'en est-il alors? Mais non, son courage sembla soudain se raffermir de lui-même. Le visage d'O'Brien, sans association d'idées évidentes, s'était présenté à son esprit. Il sut, avec plus de certitude qu'auparavant, qu'O'Brien était de son côté. Il écrivait son journal pour O'Brien. Il était destiné à O'Brien. C'était comme une lettre interminable que personne ne lirait jamais, mais qui était adressée à une personne précise et qui prenait de ce fait une coloration particulière. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C'était leur commandement final, le plus essentiel. Son cœur chavira en pensant à l'énorme puissance qui s'élevait face à lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le dominerait dans un débat, tous ces arguments subtils qu'il ne serait même pas capable de comprendre, sans parler d'y répondre. Et pourtant, il avait raison. Ils avaient tort, et il avait raison. L'évidence, la simplicité et la vérité devaient être défendues. Les truismes sont des vérités, et il faut s'accrocher à cela. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau est humide, les objets qu'on lâche tombent vers le centre de la terre. Avec le sentiment de s'adresser à O'Brien et aussi dénoncer un important axiome, il écrivit
« La liberté, c'est la liberté de dire que 2 plus 2 font 4. Si on obtient cela, tout le reste vient.